Bon retour aux missions du matin, il est 8h28 et tel que promis en début d'émission, nous recevons en studio Mme Lucie Desjardins, archiviste, et Mme Véronique Paris, technicienne en archivistique aux archives et collections spéciales de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Elles sont ici ce matin pour nous parler de l'exposition « À travers les lignes » qui est présentée jusqu'à la fin de l'année 2012 aux archives. Tout d'abord, Mme Desjardins, Mme Paris, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pouvez-vous commencer par nous présenter un peu l'exposition? Alors, c'est quoi la ligne directrice de l'exposition? Quel genre de pièces on peut admirer? Quelle est la taille de l'exposition?
Eh bien oui, en fait, le but de l'exposition est de faire connaître certains des trésors que l'on retrouve aux archives et collections spéciales en littérature française parce que nos collections sont assez riches dans ce domaine. En fait, on possède des archives sur environ 70 grands auteurs français de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et pour n'en nommer que quelques-uns, disons qu'on a des documents sur Besnard, Claudel, Farrer, Hugo, Picabia, Sand, Zola. En fait, plusieurs courants littéraires sont représentés à travers les archives. Et en ce qui a trait à la taille de l'exposition, on a choisi 38 pièces. Il y a des lettres, des textes, parfois avec des ratures, des photos et des imprimés, généralement des originaux, qui proviennent des fonds d'archives Catherine et Hearn et manuscrits français, et également de la collection des livres rares et des brochures.
Et puis, si on veut la ligne directrice d'exposition, c'est un peu de, si on se fie là, au synopsis, c'est un peu de faire connaître là, les relations qu'entretenaient les auteurs entre eux.
Absolument. En fait, je sais que ma collègue Véronique Paris va toucher un petit peu à ce sujet-là un peu plus tard. Alors, je vais lui laisser vous faire découvrir cet aspect-là de l'exposition.
Parfait, merci. Alors, si on porte une attention plus particulière aux pièces de la collection, là, moi, je suis allée la visiter, puis il y avait quand même là, des documents très rares, très importants, notamment une copie manuscrite de la pièce « Hernani » de Victor Hugo. C'est une pièce fondatrice du romantisme français qui a donné lieu à la bataille d'Hernani en 1830. Et puis, bataille, c'est pas une expression qu'on dit à la légère parce qu'il y avait vraiment des gens qui se chahutaient dans le théâtre pendant la pièce. Il s'agit vraiment d'un document authentique de la main de Victor Hugo qu'on possède ici à l'Université d'Ottawa. Okay.
En fait, cette copie est une facsimilée.
Okay.
Alors, un facsimilé, c'est une copie qui représente le plus le manuscrit original possible. Ça fait qu'on va voir si le papier du manuscrit est jauni ou il y a des taches. Le facsimilé va reproduire fidèlement ces aspects-là. Ces aspects particuliers. Alors, ce n'est pas la copie originale de Hernani, mais on a des copies originales de d'autres documents de Victor Hugo, dont des fragments de son texte aux Allemands qu'il a écrit en 1870 à son retour d'exil de Guernsey.
Donc, pendant la guerre franco-prussienne, c'est ça?
Oui, c'est ça. Après, je pense que c'était après la défaite de Sedan.
OK.
Alors, et en plus, on a d'autres documents de d'autres membres de sa famille, dont des lettres de son fils François-Victor Hugo, qui est un traducteur de Shakespeare très connu au 19e siècle, et également beaucoup de correspondances et des dessins de Jean Hugo, son arrière-petit-fils.
Puis,
OK. Il connaissait bien des artistes, dont Jean Cocteau et Raymond Radiguet.
Jean Hugo. Pas Victor.
Jean Hugo. Non, Victor avait déjà quitté le monde à cette époque.
On a aussi, là, dans l'exposition, parmi les documents exposés, on a aussi une lettre manuscrite de Zola, d'Émile Zola, envoyée à Léon Hennick, un extrait du roman Mademoiselle Merquem de Georges Sand, paru en 1868. Un texte manuscrit de Paul Verlaine, une copie de l'éloge des perruques du directoire, un texte rédigé par les frères Goncourt, beaucoup de correspondances d'auteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces documents rares-là?
La correspondance, elle est particulièrement intéressante et amusante à lire parce que, comme le disait ma collègue Lucie Desjardins, on voit beaucoup, beaucoup d'aspects, les liens entre les artistes. Et puis, on apprend beaucoup sur leur passe-temps, comment ils se sentaient une certaine journée, comme s'ils se sentaient malades ou s'ils étaient heureux ou frustrés de leur carrière. ou et également aussi on apprend sur leurs relations familiales, comme par exemple dans une des lettres manuscrites de Zola, il fait une critique constructive d'un roman de Léon Hennig qui sera le futur président de l'Académie Goncourt. Alors, c'est intéressant de voir qu'il se sentait assez lié pour pouvoir parler de ça. Il dit, ben, j'aime pas tel extrait de ton roman, pourrais-tu changer ça? C'est vraiment, vraiment intéressant. Et également, comme le mentionnait ma collègue, Madame Desjardins, on peut voir dans les manuscrits, on peut voir beaucoup de ratures dans certains cas. Et c'est intéressant parce qu'on voit le changement que l'auteur a effectué, ont fait pendant la préparation de leur œuvre. Alors, on voit, ils disent tel mot est pas assez bon, ou encore, ils ont décidé de tronquer carrément certains aspects de leur, du manuscrit, en fait, du roman, parce qu'ils jugeaient que c'était pas assez, assez intéressant. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne toute une autre dimension d'une œuvre, puis de la vie de l'auteur en plus.
Vous parliez des ratures, justement, là, c'est toute une dimension, c'est toute une forme de... toute une branche de la critique littéraire, c'est la génétique littéraire, là, l'étude des manuscrits, des ratures, des différentes versions. Donc, si on veut se lancer dans ce domaine-là, on a des spécimens rares ici aux archives.
Oui, comme particulièrement, on a tout le manuscrit de Mademoiselle Merkem de Georges Sand, puis on a aussi une section de Consuelo.
Consuelo, qui est quand même un très grand roman de Georges Sand, là.
Ah oui, un très grand roman. Ah, effectivement, une fois, je lisais le roman, puis à un moment donné, je lisais pendant ma pause, puis pendant que je travaillais, j'étais en train de classer le fond, puis qu'est-ce que je tombe sur le roman Consuelo. Je venais juste de lire le chapitre que j'étais en train de classer.
Est-ce que vous vous sentiez comme une lectrice privilégiée, justement, de passer du roman au document d'archives?
Oh oui, beaucoup!
En visitant l'exposition, on peut voir qu'il y a plusieurs photographies, notamment des photos de l'artiste visuel Francis Picabia au volant d'une voiture d'époque, un portrait d'André Breton, le père du surréalisme, ou encore une photo de l'Académie Goncourt. Les photos qu'on peut voir, est-ce que c'est des originales ou des reproductions?
Ce sont des copies d'originaux. Mais ça, c'est juste une petite partie de la collection. En fait, dans les manuscrits français, nous avons près de 350 documents iconographiques. Alors, ça comprend des affiches, des négatifs, des dessins, des esquisses et beaucoup, beaucoup de photographies. Des fois, les photographies viennent dans des formats assez particuliers, comme les photos de Picabia. Il y a des photos de Picabia qui viennent dans un genre de petit album. Puis l'album, en fait, c'est d'un voyage qu'il a fait avec son ami en voiture en 1909. Puis aussi, on peut également voir des photos des membres de sa famille, certaines datant, ouais, la famille de Picabia, datant de 1880. Puis il y en a même une qui est à la plage à Étretat, et on voit les femmes qui sont à la plage avec leur immense robe. Alors, vous vous demandez comment ils font pour nager sans tomber au fond de la mer.
Ça doit être assez cocasse à voir. Personnellement, il y a deux documents qui ont retenu mon attention. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, les remettre en contexte. Premièrement, il y avait une lettre de l'UNESCO. Alors, de quand date-t-elle? À qui s'adresse-t-elle? De quoi parle-t-elle?
La lettre de l'UNESCO, elle est écrite par Georges Voskavec et elle est adressée à Georges Raymond Dessaigne, un poète surréaliste. Puis c'est une lettre dans laquelle Georges Voskavec décrit un futur projet d'études sur l'art moderne et la contribution de diverses cultures sur la vie quotidienne. Mais ça, ce n'est qu'une petite pièce de toute la collection de Georges Raymond Dessaigne que nous possédons, parce que on a l'équivalent d'à peu près quatre boîtes de documents de Georges Raymond Dessaigne, comprenant, entre autres, des scénarios, des manuscrits de scénarios, de poèmes, des pièces de théâtre. Puis, une des pièces les plus intéressantes, c'est La Marie du Port, les dialogues du scénario de La Marie du Port, un film de Marcel Carné, qui est le réalisateur des Enfants du Paradis, un des films forts de la français. Et puis, ce film-là, La Marie du Port, mettait en vedette Jean Gabin.
Quand même.
Oui.
Le deuxième document qui a vraiment là, attiré ma curiosité, c'est un mémoire de la Société royale du Canada qui est situé ici à Ottawa. Le mémoire s'intitule Edmond et Jules Goncourt. C'est un mémoire rédigé par Arthur Beauchesne. J'ai fait un peu de recherche. Arthur Beauchesne, c'est un ancien journaliste banni de la tribune de presse parlementaire à Ottawa. Il est par la suite devenu le premier greffier canadien-français à la Chambre des communes. C'est aussi l'auteur du premier manuel de procédure parlementaire de la Chambre, le Rules and Forms of the House of Commons of Canada en 1922. C'est quand même intriguant tout ça, là. Je me demandais quel est exactement le lien entre ce mémoire d'Arthur Beauchesne, son rapport avec la Société royale du Canada et les frères Goncourt.
À sa création, la Société, en 1883, la Société royale du Canada a été divisée on a choisi quatre sections d'études, dont une qui comprenait la littérature française, l'étude de la littérature française, l'histoire et l'archéologie. Arthur Beauchesne a été élu membre de la Société royale du Canada en 1924, et tout de suite, il s'est vraiment spécialisé dans la littérature française, dans l'étude de la littérature française. Puis en outre des frères Goncourt, il a écrit des mémoires sur Stendhal et puis sur Barbie d'Aurevilly. Et ces mémoires, en fait, sont disponibles dans notre collection de brochures aux archives et collections spéciales. Alors, si ça vous dit de lire sur Stendhal, vous intéresse de lire un peu plus sur Stendhal et de lire une brochure d'un auteur canadien-français, vous êtes les bienvenus.
Ou Barbier d'Aurevilly aussi, qui est un auteur qu'on connaît peut-être un peu moins bien aujourd'hui, mais qui était quand même un auteur très, très important là, au 19e siècle.
Ah oui, il a écrit, c'est ça, la fausse maîtresse et, je peux me tromper aussi, Le bonheur dans le crime.
Il est surtout connu aujourd'hui, je pense qu'on l'enseigne pour son pamphlet Les bas bleus, un pamphlet très, très, très misogyne là, sur la place des femmes dans l'art. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas vraiment passé à la postérité. Je me demandais aussi, parmi les documents qui sont exposés, il y a la correspondance du poète surréaliste Jacques Baron qui a été utilisée par une doctorante de l'Université d'Ottawa puis qui a été au cœur d'un projet très particulier.
Oui, en fait, vous parlez de Catherine Ahern qui a fait son doctorat ici à l'Université d'Ottawa et qui s'est inspirée de Jacques Baron comme sujet pour sa thèse qui a été publiée en 1979. Pour les fins de sa recherche, Mme Ahern a été en contact avec M. Baron, qui était toujours vivant à l'époque. À plusieurs reprises, elle l'a visité en France et puis elle lui a, entre autres, acheté des manuscrits. Par la suite, elle les a donnés aux archives et collections spéciales. En ce qui concerne les projets spéciaux, par contre, qui ont suivi, dans les derniers 10 ans, je dirais, il y a une équipe formée de chercheurs de l'Université de Nantes en France et de l'Université Trent, ici en Ontario, qui se sont particulièrement intéressés à Jacques Baron. Et pendant des années, il y a eu quelques voyages ici au Canada. Alors, la recherche s'est poursuivie et a finalement donné naissance à un livre qui vient de paraître en 2009 et qui est intitulé « Jacques Baron, l'enfant perdu du surréalisme », parce que cet auteur avait été un petit peu oublié. C'était comme un des derniers du grand mouvement du surréalisme. En France.
On parle de quelle année à peu près?
Pour Jacques Baron?
Ouais.
Bien, Jacques Baron, si je ne m'abuse, est né en 1905 et est décédé en 1981.
OK.
Donc, il est vraiment vers la fin là, du mouvement. Mais il a eu le temps de connaître les membres fondateurs et puis, entre autres, André Breton, qui était, disons, au cœur de tout le mouvement surréaliste. Également, donc, l'intérêt qui a entouré Jacques Baron a fait en sorte aussi que la Bibliothèque municipale de Nantes a emprunté un certain nombre des documents qui font partie de notre collection de manuscrits français dans le cadre d'une exposition en 2009-2010. Alors, pour nous, ça a été vraiment une occasion de nous faire connaître encore plus à l'international, si je peux dire.
Est-ce que c'est délicat d'organiser, de faire voyager comme ça des documents d'archives d'un pays à l'autre, d'un océan à l'autre?
Absolument. Il y a beaucoup de précautions à prendre, que l'on parle des assurances, du contenant. À un certain moment, on pensait même peut-être pouvoir utiliser la valise diplomatique de l'ambassade de France. Bon, en fait, il y a effectivement beaucoup de précautions à prendre.
Donc, c'est pas un projet dans lequel on se lance comme ça. Là. Il faut vraiment là, prendre son temps puis faire c'est beaucoup de planification.
Il y a des mois de préparation juste pour envoyer les documents là-bas, effectivement. Et puis, si je peux juste dire peut-être un dernier petit mot, les lettres de Jacques Baron qui sont en montre font référence à un voyage qu'il a fait ici, une visite qu'il a fait à l'Université d'Ottawa ici même cours des années 70, toujours dans le cadre de ses relations avec Catherine Ahern. Alors, c'est intéressant de voir les petits commentaires qu'il fait sur son voyage.
c'est quand même un témoignage assez unique. Là. On a les archives d'un auteur qui parle de nous, finalement, de l'Université d'Ottawa.
Oui, c'est ça.
Je me demandais, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de l'exposition À travers les lignes?
Je vous résume ça en une seule phrase. C'est tout simplement qu'on retienne le potentiel de recherche qu'il y a dans les documents que l'on a en littérature française, aux archives et collections spéciales, et la richesse de ces documents-là également.
Parce qu'il faut le préciser, là, les archives, l'exposition en tant que telle, c'est ouvert, oui, à la communauté universitaire, aux chercheurs, aux étudiants, aux professeurs, mais le grand public peut aussi venir voir l'exposition.
Absolument. Le public a accès à toutes nos ressources au même titre que la communauté universitaire.
Donc, s'il y a des chercheurs qui ne sont peut-être pas des chercheurs professionnels ou des chercheurs affiliés à une université quelconque, qui sont quand même libres de venir feuilleter les documents d'archives ici à l'Université d'Ottawa, c'est ça?
Tout à fait.
Ça prend combien de temps pour monter une exposition comme À travers les lignes? Puis je me demandais aussi, lorsque Archives et Collections spéciales décident de monter une exposition, comment est-ce que vous procédez pour choisir le sujet de l'exposition, pour choisir les pièces de collection à montrer?
Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Disons qu'en ce qui concerne les thèmes, on essaie parfois de faire correspondre le thème à un événement qui va se passer sur le campus. Donc, on sait déjà qu'il y aura un intérêt pour le sujet. Et on essaie également parfois de souligner des dates importantes. Comme par exemple, on a fait la dernière exposition qu'on avait faite, par exemple, portait sur les choix entourant la maternité parce qu'en 2011, c'était le 50e anniversaire de l'introduction de la pilule contraceptive au Canada. Alors, on avait une exposition qui parlait de tout ce qui peut toucher là, la maternité, donc de vouloir devenir enceinte à ne pas être capable de devenir enceinte, donc les questions de stérilité, les questions aussi de stérilité forcée qui ont déjà été faites, enfin. Et également, attendez un petit peu là. Également, pour faire une exposition comme celle-ci, écoutez, ça nous prend environ de 2 à 3 mois. Et là, c'est pour vraiment décider du thème, choisir les pièces, etc. Il y a toutes sortes de contraintes, je dirais parfois aussi, qui viennent en ligne de compte, comme par exemple des raisons aussi simples que la grosseur de l'espace qu'on a disponible versus la grosseur du document qu'on aimerait bien pouvoir exposer. Parce que les documents sont exposés dans des montres qui ont une protection contre les rayons UV. La protection maximale et tout ça. Donc, on doit quand même respecter ces petites contraintes-là. Parfois, c'est également la nature du document au niveau conservation. Est-ce qu'on va pouvoir l'exposer sans l'endommager, comme ma collègue Véronique Paris parlait tout à l'heure d'un album de photos. C'était difficile de mettre l'album en montre au complet, disons, de le faire tenir comme il faut sans l'endommager, puisqu'il va rester là plusieurs mois. Alors, on a choisi de reproduire une des photos qui en faisait partie, tout simplement. Mais l'album, lui, reste disponible à la consultation.
S'il y a des curieux qui veulent en savoir plus, justement, sur cet album photo de Francis Picabia.
Mm-hmm, exactement.
Je me demandais aussi, la bibliothèque, comment est-ce que vous faites pour acquérir comme ça des documents rares? Comment est-ce que vous voulez financer l'achat de ces documents-là, la préservation de ces documents-là? Est-ce que il y a des dons des particuliers? Est-ce qu'il y a des pièces acquises avec des fonds de recherche, comme par exemple on mentionnait tantôt avec les manuscrits de Jacques Baron?
En fait, il y a plusieurs modes d'acquisition. Un d'entre eux, bien sûr, c'est le don. J'ai fait référence, entre autres, à Catherine Ahern, qui nous a donné des documents qu'elle avait déjà acquis. Les manuscrits français, eux, c'est un cas très particulier. C'est le département de lettres françaises qui a acheté les manuscrits au cours des années 60 et 70 et qui, éventuellement, les a donnés aux archives et collections spéciales. Dans d'autres cas, il y a effectivement des fonds spéciaux qui sont mis sur pied ou qui sont disponibles plutôt pour l'achat de livres. C'est le cas, entre autres, pour la collection de livres rares. Et les professeurs sur le campus ont d'ailleurs encouragés à faire des suggestions d'achat. Ils jouissent, les nouveaux professeurs tout particulièrement, jouissent en fait d'un petit budget discrétionnaire pour acheter des ouvrages qui leur seraient utiles. Et certains d'entre eux les utilisent à très, très bon escient, si je peux dire.
Parce que c'est sûr que si on est un prof du siècle des Lumières, ça coûte un peu plus cher que si on est un prof de littérature québécoise contemporaine.
Absolument.
Ces objets-là qui sont en montre dans le cadre de l'exposition ne présentent vraiment là, qu'une infime partie de vos collections d'archives. Là. Par exemple, on a mentionné tantôt Mademoiselle Merkem. Il y a seulement une page manuscrite du roman qui est exposée, mais vous avez le roman au complet. Il y a plusieurs autres pièces comme ça là, qui n'ont pas été exposées, mais qu'on pourrait découvrir si on vous laisse donner la peine justement là, de consulter votre catalogue d'archives puis de faire des recherches. Il y a vraiment des trésors là, qu'on ignore qui se trouvent sur notre campus.
Absolument. En fait, j'allais justement suggérer aux gens qui veulent en savoir un petit peu plus d'aller sur notre site web, celui des archives et collections spéciales, et de consulter le guide de recherche. Toutefois, il faut vraiment garder en tête que contrairement à ce qu'on peut penser, tout n'est pas sur le web. Alors, quand on a des intérêts particuliers ou si on veut savoir est-ce qu'il y aura un petit peu plus que qu'est-ce que j'ai découvert en ligne, c'est toujours bon de nous contacter directement aussi avec les questions de référence.
Parlant du contenu en ligne, est-ce que vous numérisez une partie des documents?
Oui. Certains d'entre eux le sont. Comme par exemple, on a participé durant les trois dernières années à un très, très gros projet de numérisation de publications en français datant d'avant 1930. Donc, ils sont complètement libres de droits d'auteur. Et donc, plusieurs milliers de livres de la bibliothèque, incluant ceux des collections de livres rares, par exemple, ont été numérisés, sont disponibles entièrement en ligne, présentement via le site web de Internet Archives, mais prochainement, il y aura un lien dans le catalogue de la bibliothèque également pour y accéder plus directement.
On avait parlé un peu de ce projet-là, justement, ici à l'émission du matin. C'était en collaboration, si je ne m'abuse, avec l'Université de Toronto, c'est ça?
Exactement. C'est ça.
Et puis, dernière question en terminant, est-ce qu'on peut peut-être donner les détails pour les gens qui voudraient visiter l'exposition ou consulter les archives? Comment on procède?
Absolument. Bien, premièrement, pour l'exposition, je profite de l'occasion pour répéter qu'elle est en montre jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à la fin du mois de décembre de cette année. Et pour se présenter en personne, il faut venir dans l'édifice de la bibliothèque Morissette au niveau de la promenade. On est à la pièce 039. Et également, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 4h30 pour le public. Occasionnellement, sur demande spéciale pour des groupes, et ça nous arrive d'ouvrir en soirée si vraiment il y a un besoin.
Bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous ce matin à l'émission. C'était Mme Lucie Desjardins, archiviste, et Mme Véronique Paris, technicienne en archivistique aux archives et collections spéciales de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Alors, comme on l'a mentionné, si l'exposition vous intéresse, celle-ci est ouverte aux étudiants, aux professeurs, mais également au grand public. Et l'entrée est libre, c'est ça?
Oui.
L'entrée est libre. Alors, une raison de plus pour s'y rendre. Vous pouvez la visiter en semaine, comme on a dit, entre 9h et 16h30 aux archives de la bibliothèque, pièce Morissette 039. C'est au niveau promenade et l'exposition est à l'affiche jusqu'au 21 décembre. Et bien sûr, on vous mettra tous les liens sur la page Facebook de l'émission du matin. Alors, vous faites facebook.com/ l'émission du matin. Mission comme dans Mission Impossible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.